Michel Dupuis est professeur à l'université de Lille 2, professeur de droit, spécialiste de propriété intellectuelle. Je crois qu'il a quelques activités pour l'INPI, par exemple. Donc c'est un domaine qu'il connaît bien. Et alors, il est engagé, évidemment, dans l'UNJF. Il appartient depuis le début à la commission pédagogique. Et il présente le gros avantage, étant lillois, d'être aussi engagé dans l'université médicale virtuelle francophone, puisqu'il est membre de la commission juridique de l'université médicale, dont vous savez que le siège est à Lille, bien sûr, et c'est parti de Lille, hein, l'entreprise. Oui, oui. On a bien connu ça. Donc, merci Michel. L'avantage, c'est qu'il a un point de référence extérieur au droit, donc ça le désigne tout particulièrement pour nous parler de ces questions. À toi la parole.
Merci, t'es gentil, mais tu me fais intervenir bien tard et effectivement c'est un handicap. Donc vous voyez, je compense par un peu de cinéma pour essayer de ne pas vous lasser. Alors le sujet en plus que m'a confié Yann n'est pas non plus d'une grande simplicité. Le droit de citation des œuvres et le régime de l'accession pédagogique, c'est pas simple. Alors tout d'abord, pour commencer, je rappellerai une évidence. Je pense qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'analyse scientifique, il n'y a pas de cours... Il n'y a pas de contenu pédagogique qui ne soit tributaire d'œuvres antérieures. C'est ainsi que se construit le savoir, vous le savez bien. Il capitalise l'expérience de ses prédécesseurs. Autant dire que il ne peut pas y avoir de progrès scientifique ou d'évolution intellectuelle sans la possibilité de se référer à des œuvres préexistantes. Alors, oui, mais... Le problème, c'est que cette nécessité scientifique ou intellectuelle se heurte au monopole légitime que les auteurs ont de par la loi. Et le code de la propriété intellectuelle protège, on l'a vu toute cette matinée et cet après-midi, les auteurs contre le pillage de leur création. Et c'est dans ce but que l'article L122.5 du code de la propriété intellectuelle vient réglementer étroitement les cas dans lesquels les droits exclusifs de l'auteur sont susceptibles d'être paralysés. Voilà le cœur de mon propos. Et parmi ces exceptions, le Code va permettre d'utiliser publiquement de courts extraits de l'œuvre d'autrui à titre d'information du public, sans aucun but concurrentiel ou encore de but parasitaire. Et c'est le cas de la courte citation, exception donc classique du droit d'auteur. Et puis, c'est le cas aussi de l'exception pédagogique qui, vous le savez, on l'a déjà évoqué aujourd'hui, est issue de la directive de 2001 et transposée dans le cadre de la fameuse loi d'AFSI de 2006. Alors, on peut tout de suite dire que l'exception pédagogique telle qu'elle résulte de la loi de 2006 n'est pas encore en application, puisque son application a été reportée au 1er janvier 2009. Entre-temps, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ces fameux accords sectoriels qui ont été négociés, dont je reparlerai, et qui s'appliquent pour la période 2006-2008. Alors, cette seconde exception pédagogique était attendue par le monde de l'enseignement et de la recherche avec intérêt. L'idée, c'était évidemment d'élargir le droit d'utiliser les œuvres dans un but pédagogique ou scientifique. Et il faut bien le dire, vous ne me contrarieriez pas, c'est que ça a été l'enjeu de discussions âpres entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Et de là est né une sorte de compromis. Compromis dont les effets restent quand même à mesurer. Et comme l'observe déjà la doctrine, cette dérogation au droit de reproduction, au droit de représentation sur les œuvres de l'esprit est si étroitement encadré que on s'interroge légitimement sur son utilité pratique. Le respect des droits d'auteur, mais aussi et surtout, il faut quand même bien le dire, le respect des éditeurs, conduit donc à une certaine circonspection lorsque l'on utilise des œuvres d'autrui, lorsqu'on fait des emprunts aux œuvres d'autrui. Alors, quand on parle d'exception pédagogique, une question que je me suis posée, mais au fait, c'est quoi l'exception pédagogique? En réalité, il y a beaucoup de choses qui relèvent d'exception pédagogique, pas seulement cette exception qui a été introduite par la loi d'AFSI dont je vais parler. Regardez dans un sens plus large. Déjà, on peut remarquer que le droit de citation, c'est aussi à but pédagogique qu'on l'emploie. Et puis, le droit de copie, on l'utilise également pour créer des œuvres pédagogiques. Le droit d'AFSI d'ailleurs a introduit certaines exceptions qui sont des exceptions entre guillemets pédagogiques. Regardez le droit de bibliothèque. Hein, les droits reconnus aux musées, aux services d'archives, aux organismes de dépôt légal, ou encore l'article L335.3-1 qui permet de lever les mesures techniques de protection des œuvres à des fins de recherche. Bon, alors, mon sujet étant suffisamment compliqué comme ça, je vais restreindre évidemment mon propos à l'exception pédagogique dans son sens étroit. Hein, donc, alors, vous avez remarqué déjà à travers mon propos qu'il y a des points communs entre la courte citation et l'exception pédagogique, parce que, en fait, elles permettent toutes deux la reproduction partielle de l'œuvre d'autrui à des fins illustratives. Alors, évidemment, ce sont des outils très importants pour nous, chercheurs, pour nous, pédagogues. Mais on peut remarquer que si elles peuvent permettre la reproduction d'extraits, il faut quand même dire qu'elles ont des régimes quand même sensiblement différents. Et nous allons donc voir que la reproduction partielle de l'œuvre d'autrui a un domaine particulier, et nous verrons ensuite qu'il y a aussi des conditions. Alors, la première partie porte sur le domaine, et nous allons tout d'abord parler, évidemment, du domaine du droit de citation, puis ensuite nous verrons le domaine de l'exception pédagogique. Alors, concernant le domaine du droit de citation, la définition du domaine du droit de citation conduit à s'interroger sur deux choses, l'œuvre citante et l'œuvre citée. Et nous verrons que, technologie oblige, le domaine de la citation s'est élargi à de nouvelles formes. Alors, tout d'abord, parlons de l'œuvre citante. Alors, s'agissant de l'œuvre citante, si vous lisez l'article L122.3-A, qui est dans les documents que Yann a bien voulu reproduire, le Code de la propriété intellectuelle utilise une formule très générale. La courte citation doit s'incorporer dans une œuvre, sans autre précision. La loi ne distingue pas selon les supports. Le droit de citation peut donc s'exercer sur des supports traditionnels que l'on connaît, les ouvrages, les publications papier, etc., mais également donc dans les supports numériques, que ce soit des CD-ROM en ligne, enfin bref, Internet, dès lors évidemment que les conditions du droit de citation soient respectées. Alors, si l'on s'en tient à la lettre du texte en tant que disposition exceptionnelle, aboutissant à une forme d'expropriation partielle quand même de l'auteur pour cause d'utilité privée, l'exception doit être interprétée de manière restrictive. C'est pourquoi la jurisprudence a considéré qu'il fallait limiter l'exception à la citation littéraire. La citation littéraire, la courte citation supposerait donc une reproduction textuelle, graphique ou orale. S'agissant de l'œuvre citée maintenant. Alors, cette citation littéraire peut emprunter à toutes sortes d'œuvres. Hein. On pense bien sûr à toute forme d'expression exprimant concrètement la pensée de l'auteur, que ce soit par écrit ou même par oral après tout. On peut ainsi citer les propos d'une personne, reprendre un court extrait d'un discours, d'une conférence, et même de la jurisprudence sur un spectacle. Alors, on peut quand même observer que la courte citation semble pourtant exclue de certaines œuvres en raison de leur nature. Alors, c'est le cas tout d'abord des œuvres d'art visuel. Que ce soit des peintures, des images, des photographies, des sculptures, pour elles, la courte citation n'a aucun sens. Comment voulez-vous citer une partie d'image ? Donc, le caractère intégral de la reproduction va donc interdire, de fait, le droit de citation artistique. Et une loi, la loi du 27 mars 1997, a essayé d'aménager un petit peu cette question en introduisant une exception à l'interdiction, en autorisant expressément une reproduction intégrale ou partielle des œuvres, mais alors dans des conditions très très étroites, c'est uniquement pour des catalogues de vente aux enchères au public. Alors, vous voyez, ça ne nous concerne pas trop. Hein. Alors, il y a eu aussi une autre amélioration de ce texte, mais bon, hormis ces adaptations particulières pour les catalogues, le principe demeure l'interdiction de la citation des œuvres artistiques. De même, pour les œuvres musicales, elles ont été exclues par principe du droit de citation en raison de l'impossibilité de satisfaire, dans l'extrait qu'on va utiliser, de satisfaire à l'obligation de mentionner l'auteur, le nom de l'auteur. Comment voulez-vous Alors, réfléchissant un peu, je me suis dit, mais on peut pas admettre quand même une courte citation par reproduction écrite d'un couplet, par exemple hein, ou d'une phrase musicale, vous savez, la portée, hein. Est-ce que c'est pas possible, ça? On pourrait utiliser, par exemple, une phrase musicale de telle œuvre pour à titre illustratif ou à titre polémique, hein. C'est tout à fait possible. Quant à la citation purement auditive, est-ce qu'on peut faire une citation auditive, hein? Ben, elle pourrait se concevoir que dans des cas très particuliers. J'ai trouvé une jurisprudence sur le pastiche. C'est-à-dire qu'on reproduisait une phrase musicale dans un sens de moquerie. Enfin bon, c'était une phrase de Carmen. Bon, vous voyez, un peu détournée. Mais à part ça, concrètement, ce type de citation est très rare. Et en tout cas, il ne faut surtout pas qu'elle ait un but commercial. Alors, regardez par exemple, on en a parlé tout à l'heure, hein, on a parlé des mélodies de téléphone portable. Hein, c'est évident que ça marche pas, la courte citation pour les mélodies de téléphone portable. Hein. Les florilèges musicaux sur Internet, c'est pas non plus une courte citation. Hein, et elle doit faire évidemment l'objet d'autorisation des ayants droit. Hein, y a pas de problème. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le droit de citation, confronté à de nouvelles technologies, s'est élargi à de nouvelles formes. Oui, effectivement, la loi du 3 juillet 1985, instituant, vous le savez, les droits voisins des droits d'auteur. Hein, on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est que les droits voisins? Bon, alors donc, évidemment, ce sont les droits sur les interprétations, les phonogrammes, les vidéogrammes. Enfin bon, c'est vraiment du langage juriste. Hein. Donc, c'est l'article L122.5, mais aussi il y a l'article L211.3, il y a la courte citation des œuvres audiovisuelles qui était expressément autorisée, mais alors attention, pas pour nous, pour les chaînes de télévision et de radio. Hein. Bon, donc on peut reprendre, vous savez, quand vous regardez la télé, vous regardez par exemple les infos, vous avez en bas le petit logo image en France 2 quand vous êtes sur TF1 et inversement, donc ils s'empruntent des images, c'est de la courte citation, mais ça c'est prévu par les textes. Hein. Alors, le monopole des droits d'auteur a également reculé face au droit à l'information, au droit d'informer. Hein. Droit d'informer, liberté fondamentale quand même. Hein. Et donc, on a une loi de 92 sur l'audiovisuel qui a institué, ça va plaire aux gens qui aiment le football ou en ce moment le tennis, hein, la citation sportive. Donc vous pouvez mettre les images du point de tennis là, paf, voilà, bon, ça c'est possible. Mais encore, vous voyez que c'est dans le monde des médias. Hein, dans le monde des médias. C'est une citation à titre informatif. Et donc, de même, vous pourrez remarquer que dans ce cadre-là, il est possible de représenter intégralement ou partiellement des œuvres graphiques ou plastiques ou architecturales dans le but d'informer. Alors, bon, il faut aussi parler du fameux droit qu'on appelle sui generis, ça veut dire qui s'autogénère, le droit sui generis des bases de données. Alors, pour les bases de données, effectivement, il y a une forme de courte citation, c'est-à-dire que vous pouvez extraire et réutiliser une partie non substantielle, hein, du contenu d'une base de données au profit donc de cet usager, et ça effectivement à condition que l'usager qui extrait a un accès licite à cette base de données. Bon, donc vous voyez des nouveaux droits de citation. Hein, bon, alors maintenant à côté de ce droit classique, on va dire, quel est le domaine de l'exception pédagogique? Alors, l'exception pédagogique touche à la fois le droit de reproduction et le droit de représentation concernant des extraits d'œuvres. Et c'est vrai que l'article L211.3, troisièmement, précise en matière de droit voisin que l'auteur ne peut interdire la reproduction et la communication au public d'extraits d'objets. Hein. Pour les bases de données, c'est pareil. On parle de la réutilisation ou de l'extraction d'une partie, cette fois-ci, substantielle d'une base de données. Alors, néanmoins, faut pas croire que l'exception pédagogique soit quelque chose de très très large. C'est un domaine extrêmement réglementé, et c'est réglementé tant par rapport aux œuvres visées que vis-à-vis des activités d'enseignement et du public aussi qui se trouve être concerné. Alors, par rapport aux œuvres visées tout d'abord. Eh bien, l'usage à des fins exclusivement pédagogiques peut, en principe, concerner toute œuvre de l'esprit. Et c'est vrai que la loi a étendu le domaine aux œuvres d'art, aux œuvres audiovisuelles, qui sont couvertes par les droits voisins, ainsi qu'aux bases de données. Toutefois, le législateur, en fait, a été sensible à certains intérêts corporatistes, on va dire, hein, des choses comme ça. Et a expressément exclu du champ de l'exception pédagogique certaines œuvres. Alors, qu'est-ce qu'il a exclu? Eh bien, tout d'abord, il a exclu les œuvres, les objets ou les bases données conçues à des fins pédagogiques. Pourquoi ? Ça, c'est la question. Ça peut paraître paradoxal, hein ? Ça paraît pas paradoxal, puisque, en fait, ce sont des œuvres créées à des fins pédagogiques. Pourquoi les exclut-on ? Ben justement. Justement parce qu'elles sont à ces fins. Quel avenir pourrait avoir de telles œuvres si, évidemment, elles pouvaient être librement utilisées ? Quel enseignant, quel étudiant irait acheter, quel chercheur irait acheter un ouvrage s'il pouvait librement recopier, utiliser ? Bon. Donc là, c'est la logique qui veut qu'on ait exclu du domaine de l'exception pédagogique ces œuvres qui sont conçues à des fins pédagogiques. Alors, je me suis quand même posé une question parce que je me suis demandé, mais en fait, c'est quoi une œuvre conclue à des fins pédagogiques ? Est-ce que ce sont des œuvres qui sont destinées exclusivement à l'enseignement ? Alors, on pense aux manuels, on pense... Ou est-ce que ça peut être également des œuvres qui sont utiles à l'enseignement ? Vous voyez la différence ? Alors, bon, vous avez... J'ai une réponse. Compte tenu du fait que c'est une exception et une interprétation étroite. Bon, donc, comme elle est une interprétation étroite, on va dire que, ça ne sera pas les œuvres utiles à l'enseignement, ce seront uniquement les œuvres destinées à l'enseignement. Donc, mais vous voyez que la nature de l'ouvrage utilisé va générer quand même quelques questions. Et ce ne sera pas toujours évident de savoir si on est dans une œuvre à des fins pédagogiques ou non. Alors, sont également exclus... Ah, j'ai cliqué trop fort, il est sensible ce truc. Les partitions de musique. Alors, là, vous devrez franchement, j'étais un peu surpris. C'est sans doute suite à une inquiétude du secteur de l'édition qu'on a exclu les partitions de musique. Donc les établissements d'enseignement, les écoles de musique n'ont pas la possibilité de dupliquer d'extraits des documents musicaux nécessaires à l'apprentissage des élèves, lesquels devront donc acheter les partitions. La courte citation, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec une courte citation sur une partition de musique pour apprendre, hein ? Bon. Donc c'est pas pertinent. Et moi, très honnêtement, j'ai pas bien compris pourquoi on avait exclu les partitions de musique, parce que de toute façon, avec le mécanisme de rémunération, les éditeurs n'étaient pas complètement lésés. Donc il y a sans doute un peu de fantasme là. Alors, il y a également l'exclusion des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit. Alors là encore, rédaction un peu particulière, qu'est-ce que c'est que cette notion d'édition numérique de l'écrit ? Alors bon, j'ai été voir les travaux préparatoires de 2006. Il semble que le législateur il cherche à exclure de l'exception les actes de reproduction et de représentation portant sur des œuvres... écrite numérisée, quel que soit le type de support ou de moyen utilisé, hein, donc DVD, mise en ligne, etc. Alors, l'idée, si vous voulez, d'après ce que j'ai compris, c'est de protéger l'édition numérique contre le pillage, sachant, c'est vrai, que les éditions en ligne sont particulièrement sensibles à ce type de problème. Ceci dit, bien qu'il soit déjà exclu au titre d'œuvres conçues à des fins pédagogiques, les cours numérisés et mis en ligne via les UNT, sont ici évidemment concernés. Donc doublement concernés en fait. Alors, voilà donc pour les œuvres visées. Parlons du public maintenant. Le public visé. Alors là encore, le législateur a pris soin d'encadrer l'exception pédagogique en utilisant deux conditions cumulatives. Une condition qui est qualitative et une condition qui est quantitative. Alors, la condition qualitative, elle est logiquement liée à la finalité de l'exception. C'est-à-dire que l'emprunt doit être à usage d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs, lesquels doivent être, dit-on, directement concernés. Directement concernés. Bon, il faudra qu'on dise ce que c'est que les gens directement concernés. Directement concernés par l'activité de recherche ou de l'activité pédagogique. Bien. Le critère quantitatif, sur le coup, il surprend. Paraît un peu plus curieux parce que le public concerné doit être majoritairement composé donc d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs. Alors, en fait, à y réfléchir, c'est pas une contrainte supplémentaire en fait. C'est pas une contrainte supplémentaire en fait. On peut dire que ce critère permet en réalité d'élargir le bénéfice de l'exception à des publics qui ne seraient pas exclusivement composés d'apprenants ou d'enseignants chercheurs. Par exemple, lors des colloques. Les colloques sont quand même ouverts à d'autres personnes que des enseignants ou des étudiants. On s'interroge quand même, hein, on s'interroge quand même sur le périmètre de l'exception face à des publics d'apprenants particuliers. Les apprentis, l'apprentissage. Qu'en est-il de l'apprentissage ? Alors on va me dire, oui, l'apprentissage, on peut considérer que les centres de formation bénéficient de l'exception. Mais les entreprises qui accueillent les apprentis, certainement pas. Hein. La question se pose également pour la formation continue. Là, c'est moins évident, parce que je vous rappelle quand même que l'utilisation d'extraits d'œuvres ne doit donner à aucune exploitation commerciale. Alors, on peut se poser la question de savoir si la formation continue n'étant pas gratuite, c'est une exploitation commerciale ou non. Ça se discute. Mais les publics de formation continue sont parfois mélangés avec des publics de formation initiale. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Quelle règle appliquer ? Hein ? Incertitude, donc. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la formation continue, c'est une exploitation commerciale ? Quand on voit quelquefois le prix que ça coûte, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ceci étant, pour l'heure, ce sont les accords sectoriels, qui ont été publiés en 2007 au BEN, qui régissent l'utilisation à des fins pédagogiques des œuvres couvertes par les droits d'auteur, et c'est ce que je me propose de voir rapidement maintenant. Alors, c'est vrai qu'en attendant l'application début 2009 de l'exception telle que je viens de vous la décrire, donc il y a cette fameuse note du 23 janvier 2007 qui en fait rend publique la conclusion avec les titulaires de droits d'auteur de 5 accords utilisant les œuvres protégées à des fins d'enseignement et de recherche. Alors ces accords, je vous les liste. Il y a un accord sur le livre et la musique imprimée. Il y a un accord sur les publications périodiques. Un accord sur les œuvres d'art visuel, un accord sur les enregistrements sonores, les œuvres musicales et les vidéos musiques, et enfin, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont également l'objet d'un accord. Alors, ces accords s'inscrivent dans le cadre d'une déclaration commune qui est adoptée en janvier 2005 par les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, et elle couvre la période de 3 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, 2006-2008, et elle prévoit un montant supporté par le ministère de 4 millions d'euros. Alors je vous regarde parce que je vous demanderai tout à l'heure peut-être comment vous faites, quand. C'est bien. Alors, le champ de ces accords recoupe quand même, dans une large mesure, celui de l'exception pédagogique. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, me semble-t-il, le législateur a décidé que l'exception entrerait en vigueur seulement à partir du 1er janvier 2009, c'est-à-dire à l'échéance des présents accords. Est inutile donc qu'il y ait tuilage. Et sans doute ces accords préfigurent-ils bien ce qui sera négocié dans le cadre de l'exception pédagogique qu'on attend le décret d'application. Alors, on peut quand même observer que ces accords sont à certains égards plus étroits que la lettre du texte de l'article L122.5e du CPI. Par exemple, le public destinataire est restrictivement limité. Les établissements visés sont les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les UT, les universités. Ce sont ceux du secteur privé. Public, pardon. Vous avez eu peur, hein. Public ou secteur privé sous contrat. Bon. Ouais. Mais on n'a pas d'autres informations. Les UNT, par exemple. Je sais que Yann Tanguy m'a gentiment demandé mon opinion sur cette question. Souvent constituées en JIP, ne sont pas des universités. Et il ne semble donc pas pouvoir bénéficier des accords à proprement parler. On n'est pas certain de ça. On n'est pas certain. Alors que de toute façon, pour les sessions pédagogiques, il n'y a pas de problème. Donc au moins, à partir de 2009, on sera tranquille. Bon. De même, les personnes bénéficiaires, ce sont des élèves, des étudiants de formation initiale et des enseignants de formation initiale également. Là, pareil, moi je suis les deux, ça me pose problème. Et les chercheurs. Alors, la formation continue, donc, est expressément exclue par les accords. Vous avez vu tout à l'heure que je me posais la question par rapport à l'exception pédagogique, mais c'est pas clairement tranché. Les accords prévoient également, mais ça c'est commun à l'exception pédagogique, c'est aucune exploitation commerciale, ça semble assez logique. Alors, ce qui m'a intéressé aussi dans ces accords, c'est la définition de la notion de classe. La reproduction ou la représentation des œuvres se fait dans une classe, c'est-à-dire, alors je vous lis, des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte à titre d'illustration des œuvres visées par l'accord ou des extraits de telles œuvres, et entre parenthèses, classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés, cours magistral dans l'enseignement supérieur. Bon, au moins, ça mérite d'être bien balisé. Et d'ailleurs, l'enseignement numérique n'a pas été oublié de ces accords. Il n'est pas oublié, mais il ne concerne que l'écrit, la presse et l'art visuel. Donc il est étroit. Excite les œuvres musicales et audiovisuelles qui, elles, pourtant, sont visées par l'excitation pédagogique. Donc la mise en ligne de ressources illustrées par ces extraits d'œuvres est réservée aux inscrits. Hein, donc là aussi, ça pose des problèmes pour certaines UNT qui sont ouvertes. Hein. On a parlé, je pense notamment à l'UMVF. Nous, on a un code d'accès, enfin bon, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et donc, ça veut dire que cette utilisation se fait dans le cadre de dans l'intranet, plutôt, et l'extranet, c'est-à-dire avec un code d'accès. Hein. Bon, mais pas Internet. Pas Internet. Alors, c'est vrai que les accords parlent d'étudiants ou d'élèves inscrits, et quand même, moi je trouve que ce critère est un peu plus précis que l'expression utilisée par la loi qui parle de public, on l'a vu tout à l'heure, directement concerné. Là, il me semble que c'est un peu plus flou. Alors, sans doute que le décret d'application apportera un certain nombre de précisions qui seront inspirées de ces accords de 2007, en entendant, on observera quand même que ces accords présentent quand même un avantage. Et l'avantage, c'est d'autoriser des extraits par les établissements publics sous contrat sans aucune formalité préalable. Ça, c'est bien. Pourvu, évidemment, que les œuvres utilisées aient été régulièrement acquises, ce qui est quand même une condition sine qua non. Alors, cette dernière réflexion m'amène à envisager à présent les conditions qu'il faut respecter pour lors de la reproduction partielle de l'œuvre d'autrui dans le cadre d'une courte citation ou de l'exception pédagogique. Alors, on peut observer que la courte citation et l'exception pédagogique ont été introduites dans notre droit à 50 années de distance, hein, à peu près. Et on peut dire que l'exception pédagogique a été introduite dans un souci de répondre peut-être un peu mieux aux enjeux contemporains auxquels nous sommes confrontés. La courte citation, c'est l'époque du papier, quoi. Hein, alors que l'exception pédagogique appartient à l'ère numérique. C'est peut-être ce qui explique qu'elles doivent répondre, bien sûr, à des conditions générales, communes, mais aussi qu'elles ont leurs propres conditions. Donc, on va tout d'abord voir les conditions communes aux deux exceptions, puis ensuite, je verrai les conditions propres à chacune de ces exceptions. Alors, conditions communes. Première condition, on a déjà évoqué ce matin la question, c'est le respect du droit moral de l'auteur. Ah, évidemment, la première condition... prérogative morale de l'auteur, vous savez que c'est incontournable. Les exceptions au droit d'auteur ne permettent pas de déroger aux droits moraux. Hein, ça, je crois que c'est clair. Donc, vous devez notamment indiquer de façon claire le nom de l'auteur. Donc, on a parlé du droit de la paternité de l'œuvre. Vous devez également faire référence à l'endroit d'où vous tirez hein, l'extrait que vous ressortez ou la citation. Et donc, le titre de l'œuvre doit être également, je crois qu'on l'a pas dit ce matin, mais il faut quand même citer le titre de l'œuvre également. Hein, il n'y a pas que le nom de l'auteur, il y a aussi le titre de l'œuvre. Alors, le respect de ces droits moraux passe également par des modes de présentation qui vont différer, en fait, selon le type d'œuvre. Pour les œuvres littéraires, bon, on sait très bien comment on fait. Hein, on met les 10 guillemets, on met les notes de bas de page, on en parlait tout à l'heure. Bon, ça va. Et pour les œuvres audiovisuelles, on fait comment? La référence peut figurer dans le générique. Pour les œuvres musicales, quelquefois, sur la pochette du DVD. Pour les œuvres en ligne, les œuvres en ligne, les références peuvent figurer sur la page d'accueil, mais est-ce que c'est bien lisible? Est-ce qu'elles ne devraient pas figurer carrément dans le texte? Hein? Donc, vous voyez, en tout cas, il faut accepter une certaine souplesse ici, pourvu que la référence ne laisse planer aucune ambiguïté sur qui a fait quoi. Hein, je crois que ça, c'est clair. Alors, moi, je crois que à des fins pédagogiques, on pourrait très bien, dans un but pédagogique évidemment, hein, mettre un extrait d'œuvre dans un sujet d'examen et l'anonymiser justement. Et le but de l'action pédagogique, ce serait vraiment de reconnaître effectivement l'auteur qui a écrit. Bon, j'ai un peu l'esprit tordu, hein, bon, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Alors. Alors, c'est vrai que. On ne parle pas de l'intégrité de l'œuvre. C'est vrai que l'article L122.5 n'y fait pas allusion, mais quand même, je crois que le respect moral de l'auteur passe également par l'absence d'atteinte à l'intégrité de l'œuvre. La courte citation ne peut pas comporter d'inexactitude, ne peut pas donner une idée dénaturante de l'œuvre dont elle est tirée. Hein? Par exemple, on a jugé que c'était une atteinte au respect de l'œuvre. Le fait de reproduire un vers déformé, Hein. C'était d'une chanson de Brel pour des fins un peu politiques. Enfin bref, bon, on a dit non, c'est pas possible. Dans le cadre d'une campagne politique, c'est complètement étranger à la pensée de l'auteur et à son univers. Bon, ok. Le droit de citation ou l'usage d'extraits à des fins pédagogiques suppose donc que on reproduise dans les deux cas, hein, donc aussi bien pour la courte citation que pour l'extrait, qu'on reproduise à l'identique. À l'identique. Sinon, donc ça veut dire que la reformulation, c'est plus une courte citation, c'est plus l'usage d'un extrait. Mais alors, c'est quoi ? Vous allez me dire, une reformulation, c'est libre de droit. Oui, mais si la reformulation est une déformation, à ce moment-là, ça pose un problème, évidemment, ça peut poser un problème de parasitisme, par exemple, ça peut poser aussi un problème de diffamation, si la déformation est préjudiciable. Donc, attention, hein, reformuler n'est pas non plus complètement... exemple de conséquences. Enfin, les droits moraux font également obstacle, et ça c'est important quand même, à la citation courte ou à l'extrait en méconnaissance du droit de divulguer. Ah oui, faut quand même pas oublier que parmi les droits moraux, il y a quand même le droit de divulgation. Hein. C'est très très important. Ça veut dire que vous ne pouvez pas citer, vous pouvez pas utiliser partiellement une œuvre qui serait inédite. Et on peut en trouver des œuvres inédites hein, dans nos placards. De collègues. Bon. Alors, deuxième condition commune qui est vraiment importante, hein, c'est le principe de l'interprétation étroite. Alors, c'est pas que... Oui, ah bah d'accord, bon. Alors, interprétation étroite, donc, c'est une règle. Je vais quand même vous dire un mot sur le test en trois étapes, parce que ça, alors là, c'est une belle invention de la loi d'AFSI. En fait, ce test en trois étapes fait simplement passer à travers le crible de ce test toutes les reproductions partielles d'œuvres d'autrui, et pour ce faire, ça doit satisfaire à trois exigences. C'est limité à certains cas spéciaux, bon, ça, c'est clair. Mais ça ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, et ça ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur, de l'artiste interprète, du producteur ou de l'entreprise audiovisuelle. Donc, vous voyez que juste un mot pour dire que vous êtes dans les limites de la courte citation ou dans les limites de l'exception pédagogique si jamais le juge décide que la manière dont vous avez employé cette courte citation ou la manière dont vous exploitez l'extrait est préjudiciable à l'auteur, eh bien, vous tombez, en gros. Hein. Donc, il faut se méfier parce que... Enfin, il peut y avoir quelques soucis. D'ailleurs, pour emprunter le propos de Christophe Caron, vous voyez, je cite mes sources, hein, droit d'auteur, il nous dit que les exceptions sont devenues des zones de liberté précaires. Comment ? L'impact sur le droit français, propriété intellectuelle, 2002, numéro 2, page 26. Voilà. Donc... propriété intellectuelle, c'est la revue. Voilà. Donc, merci de m'avoir... Donc, effectivement, ça veut dire que vous pouvez a posteriori être déclaré dans l'illégalité, et ça pose un réel problème d'insécurité juridique. Alors, très rapidement, puisque Yann est le maître du temps, et je m'y plie, les conditions propres à chacune des exceptions, bon, les conditions de la courte citation, vous avez évidemment la finalité de la courte citation. On a dit que la finalité de l'exception, c'était évidemment le caractère critique, le caractère polémique, pédagogique, scientifique, d'information. Quand je vous disais tout à l'heure que le droit de citation avait une connotation pédagogique, hein, on le voit bien à travers la finalité, je vous rappelle que compiler n'est pas cité. Hein? Bon. Deuxième condition, la brièveté. Hein? C'est une courte citation. Hein? Donc, alors le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment évaluer le quantum. Quoi, hein? Donc, on compare l'œuvre citante et l'œuvre citée. Il y a une sorte de contrôle de proportionnalité, pourrait-on dire. Hein? Bon, à partir du moment où l'ensemble des citations deviennent quantitativement, mais aussi qualitativement dominantes, la partie essentielle de l'ouvrage, là, évidemment, on tombe dans du plagiat. Mais tout ça relevant de l'appréciation soigne des juges, il est difficile de donner des critères. Alors, pour ce qui est de l'exception pédagogique, alors, comme je vous l'ai dit, il y a un foisonnement de conditions, multiples contraintes. Je vous renvoie pour faire un cours aux textes de loi qui sont dans vos documents, hein, notamment l'article L122.5, troisièmement petit e, l'article L211, troisièmement, etc., etc. Bon. Ouais. Première chose pour cette courte citation, ce sont des extraits d'œuvres. Hein. Donc, on a une notion plus large que la courte citation. L'extrait d'œuvre, c'est davantage substantiel qu'une courte citation, c'est plus large, c'est important. Mais il faut préciser que la notion d'extrait est inopérante pour toutes les œuvres d'art visuel, parce que là, on parle de communication publique, donc il n'y a pas d'extrait. On communique l'œuvre dans sa globalité. Hein. Alors, on peut noter que l'usage d'extraits d'œuvres dans les cours numériques mis en ligne fait débat. Hein, certains auteurs se posent la question de savoir est-ce que le e-learning est bien concerné. J'ai trouvé de la jurisprudence, enfin, comment dire, des auteurs comme M. Sirinelli, M. Lucas aussi se posent la question, je crois bien. Moi, je me pose pas trop la question. Pour moi, effectivement, le e-learning, c'est de l'enseignement. Alors, vous allez me dire, oui, mais les œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, alors, sont exclues du champ de l'exception, mais elles sont exclues en tant qu'objet. Hein, en tant qu'objet de protection. Rien n'empêche les auteurs de cours en ligne d'intégrer des extraits d'œuvres dans leur cours numérique. Alors, bon, dernière chose, évidemment, finalité pédagogique ou de recherche, et pour aller vite, ce qui est très important, évidemment, vous avez compris, c'est la rémunération, évidemment, de l'usage de l'extrait. En fait, vous avez là une limite. On ne limite que le caractère exclusif du droit d'auteur, on ne limite pas, évidemment, on ne neutralise pas les droits patrimoniaux, puisque il faut payer. Alors là encore, il s'agit d'une forme de licence légale, entre guillemets. Hein, bon. Alors moi je m'étais interrogé, mais on n'a pas le temps d'en parler, des cumuls de rémunération, quand l'extrait est utilisé dans le cadre de la copie, hein, dans une photocopie, donc on paye pour le CFC et on repaye encore pour. Bon, oui. Alors, on va conclure. On va conclure. Et vous allez voir, la conclusion a au moins l'avantage d'être, je pense, peut-être claire. Résumons-nous. Courte citation, exception pédagogique. Ouais, hein. Merci. Alors, en fait, les deux exceptions ont des points communs. Le point commun, c'est que, vous le voyez, c'est la finalité pédagogique et de recherche. Voilà. Donc, elles permettent, effectivement, une reproduction. Ceci étant, vous voyez bien que la courte citation ne permet qu'une simple référence, là où l'exception pédagogique utilise une reproduction ou une représentation plus substantielle de l'œuvre. La citation artistique ou musicale, on dit qu'elle n'était pas possible, hein, tandis que la reproduction des arts visuels ou audiovisuels sont autorisées pour l'enseignement ou la recherche. Alors, en contrepartie, évidemment, chacun peut se prévaloir du droit de citation, c'est libre, tandis que les bénéficiaires de l'exception pédagogique, en revanche, sont étroitement délimités. Et enfin, le droit de citation reste gratuit, et tandis que l'exception pédagogique génère une rémunération forfaitaire. Alors, je voudrais juste, si tu le permets, Yann, finir par un tout petit mot. Pour faire de la recherche, enfin, pour nous, hein, la courte citation nous suffirait bien, à la limite. Hein, la reproduction d'extraits. Bon. Par contre, pour l'enseignement, l'emploi d'extrait, là, oui, on en a quelquefois bien besoin. Or, ces exceptions passées au crible du test en trois étapes présentent quand même assez peu de sécurité juridique pour les utilisateurs. Alors, il faut espérer peut-être que le décret nous donnera quelques éclaircissements. En tout cas, j'espère que ça ne viendra pas générer de nouvelles contraintes, hein, en faisant notamment la part belle à des intérêts particuliers au détriment d'intérêt général, vous voyez ce que je veux dire. Hein, alors, ceci dit, moi, j'en ai parlé un peu à mes collègues et à d'autres enseignants, notamment du secondaire. Ces considérations sont pour la plupart du temps ignorées du corps des enseignants, qui continuent à faire comme il a toujours fait, pour éduquer au mieux nos enfants, hein, quand même. En fait, le véritable intérêt de l'exception pédagogique, pourvu qu'elle soit effectivement praticable, c'est d'exempter par avance ces comportements qui, bien que peu respectueux, en fait, des règles tatillonnes des droits d'auteur, bah, en réalité, aucun but. C'est de transmettre le savoir et la culture. Et ça, je crois qu'il faut quand même le souligner. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long.
Eh bien, j'invite de suite les trois juristes qui vont compléter la table ronde, Pierre Pérez, Jean-Pascal Bonnotal et Karine Bernot. Et ce sont trois juristes, mais je suis sûr qu'ils peuvent avoir des angles d'approche un peu différents sur la question, et ce sera tout l'intérêt de la discussion. Si vous voulez bien vous installer. Karine, vous voulez commencer?
Moi, peut-être revenir juste très rapidement sur l'exception pédagogique pour effectivement souligner, comme ça a été dit par le professeur Dupuis, qu'on est dans une période de transition, puisque l'exception telle que définie par la loi n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier prochain. Et en ce qui nous concerne, pour être totalement franche, période de transition, c'est en fait une période d'incertitude. Parce que, alors faut avouer, faut à moitié pardonner, en ce qui me concerne, j'ai plus de questions à poser que de réponses à apporter. Honnêtement, sur ce point, il y a quand même, il me semble, beaucoup de choses qui ne sont pas réglées par la loi. Alors on peut espérer qu'elles le seront évidemment par le décret d'application, mais juste pour en pointer quelques-unes, peut-être la principale, je vais peut-être simplement pointer celle-là si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'un extrait d'œuvre ? L'exception, d'ailleurs, aussi bien dans les accords sectoriels que dans la loi, concerne des extraits. Mais qu'est-ce qu'un extrait ? Je posais la question tout à l'heure avec une certaine mauvaise foi, je l'avoue, moi aussi, mais est-ce que 90% d'une œuvre, c'est encore un extrait ? Où est la limite ? Alors c'est vrai qu'il y a le triple test, sans doute, qui interviendrait, mais comment fixer le seuil ? Et sur ce point, c'est vrai que les accords sectoriels ont peut-être un avantage, entre guillemets, en tout cas pour l'instant par rapport à la loi, qui peut d'ailleurs être aussi un inconvénient, tout dépend du sens dans lequel on le prend, mais c'est qu'au moins les choses sont claires. Parce que dans les accords sectoriels, pour chaque type d'œuvre, on nous dit vous avez le droit de reprendre, par exemple, si je prends le cas des livres, l'extrait ne peut pas excéder 5 pages dans la limite de 20% de la pagination de l'ouvrage. L'avantage, c'est que c'est clair. On sait facilement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. L'inconvénient, évidemment, c'est la contrainte, un manque de souplesse. Un autre point important par rapport à cette notion d'extrait, et c'est en lien là aussi avec ce qui a été dit sur l'exception de citation, concernant les arts visuels. On a parlé ce matin ou tout à l'heure des photographies. Donc ça entre dans la catégorie des arts visuels. Sur ce point, les rédacteurs des accords sectoriels ont fait preuve d'une franchise qui les honore, puisqu'il est écrit noir sur blanc que la notion d'extrait est inopérante s'agissant des arts visuels. En conséquence, les œuvres des arts visuels peuvent être exploitées dans leur intégralité. Comment va-t-on maintenant appliquer la notion d'extrait en matière d'art visuel dans le cadre de la loi de 2006, donc à partir du 1er janvier de l'année prochaine? Si les décrets d'application ne disent rien sur ce point, ou le décret, pardon, d'application, le risque, c'est qu'on fasse une interprétation littérale du texte, comme on fait d'ailleurs en matière de citation, donc de ce qu'on se retrouve finalement dans la même impasse, la notion d'extrait étant inopérante, eh bien ça signifie tout simplement que l'exception pédagogique ne s'applique pas à ces catégories d'œuvres. Donc, tout ça pour vous dire, je m'arrêterai là simplement sur cette notion d'extrait. En fait, effectivement, les accords sont à la fois sur certains points plus restrictifs et sans doute sur d'autres un petit peu plus finalement sûrs pour l'utilisateur, pour l'usager. Mais on voit aussi qu'il y a quand même, effectivement, comme je vous le disais, beaucoup d'incertitudes. Donc il va falloir aussi être vigilant dans les mois à venir, parce que ça veut dire peut-être que certaines habitudes qui ont été prises dans le cadre des accords sectoriels vont être à revoir à l'aune de ce qui va se passer, évidemment, avec ce fameux décret d'application. Voilà juste...
Merci. Pierre Pérez. Pierre voulait intervenir.
J'avais un point de vue assez polémique à faire passer.
Mais vous êtes autorisé. Vous avez vu qu'on est tolérant à l'égard des doctrines minoritaires.
J'ai l'impression qu'on nous raconte des histoires. D'abord, on nous parle d'exception pédagogique. Moi, j'y vois une licence légale. D'ailleurs, la directive, dans sa formulation, la faculté qu'avaient les pays de mettre en œuvre une exception pour l'illustration d'enseignement ne prévoyait pas de compensation équitable. Et c'était un gain d'une discussion qui était faite en France, parce que justement on avait considéré que s'il y avait compensation équitable, on n'était pas dans le cadre d'une exception pédagogique. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique ont mis en œuvre une exception pédagogique. Il est peut-être utile de dire que nous aussi nous avons mis une exception pédagogique. La caricature dans ces formulations, elle est livrée le fait qu'on ne puisse pas utiliser les œuvres des auteurs pour les activités ludiques et récréatives. Je trouve ça étonnamment surprenant. Je veux dire que, sachez tout de même que déjà, on est dans le cas de l'illustration de l'enseignement de la recherche. Pourquoi est-ce sous-entendre qu'on ne peut pas apprendre en s'amusant ? Est-ce que ça signifie que l'enseignement est ennuyeux ? Voilà, c'est mon préalable.
Bien. Monsieur Bonnatal. Je crois que c'est un dossier que
je vais peut-être être un peu plus substantiel.
Voilà. On va débattre.
Voilà, oui. Alors, je crois que nous sommes tous d'accord sur le caractère très imparfait du régime auquel nous sommes soumis actuellement. Je dirais imparfait au deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfaisant. Et il est à parfaire au sens où il y a de véritables. La loi n'est effectivement pas directement praticable telle qu'elle est rédigée. Alors, il faut quand même faire un peu de retour en arrière sur l'origine de cette situation. Il s'agissait, en 2001, c'est d'ailleurs pour ça que c'est la direction d'affaires juridiques qui était en charge de ce dossier, d'une transposition d'une directive communautaire. Hein, directive communautaire, qui elle-même, pour une large partie, appliquait en droit communautaire les traités de l'OMPI de 1996. Vous voyez, donc l'Europe n'était pas très en avance. Ces traités de l'OMPI prévoient eux-mêmes la possibilité de spécificité de régime pour l'enseignement et la recherche. Donc c'est pas une originalité. Toutefois, les législateurs communautaires ont été quelque peu devant une difficulté d'harmoniser de très nombreux régimes disparates, reposant pour certains sur des philosophies tout à fait hétérogènes, le copyright ou le droit d'auteur. Et donc, il en est ressorti une solution assez pragmatique, qui est ce fameux test des trois étapes. Hein, donc plutôt que d'énoncer de manière générale une série de cas dans lesquels cette exception peut intervenir, eh bien, on définit une méthode qui permet de la valider. Hein, c'est cela. Alors, au niveau européen, il est vrai, M. Pérez le rappelle, que la plupart, nous avons fait une étude de droit comparé en 2004, il faudra que nous la réajustions, la plupart des pays avaient une exception pédagogique plus ou moins étendue. Alors, le problème, c'est que pour une bonne part de ces pays, l'exception pédagogique avait précédé la directive. Et s'avérait, pour certains de ces segments, contraire à la directive. Hein, donc, plusieurs pays étaient en procédure de non-transposition du fait de leurs exceptions pédagogiques trop larges. Et c'est bien là, quand même, qu'il faut s'arrêter, puisque l'exception pédagogique ne peut pas être très étendue. Alors, c'est pour cela que, au niveau du gouvernement, dans un premier temps, en 2002, le principe a été acquis de ne pas retenir l'exception pédagogique. Le projet de loi, qui est devenu la DEFSI, ne prévoyait pas cette exception pédagogique. Il y a eu de très longues polémiques. Bon, c'est vrai que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lui portait plutôt une volonté d'exception, et il s'est heurté de manière frontale au ministère de la Culture, qui avait une autre approche. C'est pour cela que, après un échec du vote de la loi en décembre 2005, le gouvernement a tenté, en fait, de trouver une solution de conciliation, qui sont ces fameux accords sectoriels. Parce que la difficulté du régime un peu intermédiaire actuel, c'est que nous avons un régime d'accord sectoriel parce qu'il était acquis en décembre 2005, qu'il n'y aurait pas d'exception pédagogique. Donc la direction des affaires juridiques a été mandatée pour négocier avec les sociétés de gestion de droit des accords sectoriels qui apporteraient aux utilisateurs des différents supports des souplesses à peu près similaires à une exception pédagogique. Donc vous avez souligné que certes ces accords ne sont pas parfaits, mais sur certains points ils comportent des avancées significatives, par leur pragmatisme d'ailleurs. Donc voilà la situation actuelle. Alors la loi DAFSI actuelle, elle est difficilement applicable dans l'immédiat. Vous avez souligné qu'il y a un certain nombre de notions qui ne sont pas du tout claires. Est-ce que, comme vous y appeliez, un décret d'application peut remplir ces vides? Ce n'est pas sûr. Hein. Nous avons fait une petite analyse des compétences du pouvoir réglementaire dans ce domaine. Alors, sans doute, puisque donc le gouvernement ne peut pas préciser par décret ce que la loi n'a pas précisé. Hein. Il peut simplement, puisqu'il n'y a pas de renvoi à un décret d'application express, le gouvernement peut simplement prendre des mesures qui sont absolument nécessaires pour mettre en œuvre la loi. Alors effectivement, ça nous sommes tous d'accord, il y a une définition de notion qui est absolument nécessaire, c'est la notion d'extrait. Ça, elle est absolument, puisque comme tout le dispositif est calé là-dessus, il faudra absolument que le décret définisse cette notion d'extrait. Il y a une deuxième notion sur laquelle le décret pourrait intervenir, c'est la définition du périmètre des œuvres exclues. Et puis, qu'est-ce qu'il peut prévoir d'autre, ce décret? Eh bien, deux choses tout à fait pragmatiques. Désigner une méthode pour identifier les représentants des auteurs capables de négocier et éventuellement les modalités de fixation de la rémunération. Voilà tout ce que peut, dans l'état actuel du droit, de la loi, prévoir un décret. Donc on ne peut pas tout attendre de ce décret. Alors, quel serait le régime au 1er janvier 2009 si la loi reste en l'état, même précisée sur les points techniques que j'ai évoqués par un décret? Eh bien, on serait dans un régime conclusion d'accord, pas très éloigné dans la méthode de celui que nous connaissons actuellement, avec, malgré tout, quelques évolutions du contenu, puisque vous l'avez souligné, le contenu de la disposition législative et le contenu des accords ne sont pas absolument en adéquation. Voilà sur l'état de la question. Alors, quelles sont les solutions alternatives? Quelles seraient les solutions alternatives? Il y en a deux, mais qui supposeraient l'intervention de la loi. Ces deux solutions alternatives, la seule qui garantirait une sécurité juridique totale, c'est la création d'une licence légale, hein, d'une véritable licence légale. Mais la difficulté, c'est que la licence légale, ça ne pourra jamais être la licence légale gratuite, puisque là, on se heurterait vraiment au test des trois États. Effectivement, ça serait la meilleure solution, la création d'une licence légale par la loi, puisque elle permettrait de garantir que le consentement, qu'on n'a jamais à recueillir le consentement des auteurs, hein, c'est ça. Alors l'autre solution, ça sera intermédiaire, c'est la mise en place d'une vraie gestion collective obligatoire, un peu à la star du modèle que nous connaissons bien du CFC, donc qui est un peu plus sûr juridiquement, puisque dans ce cas-là, ce sont les sociétés de gestion qui sont titulaires des droits, mais elles présentent une petite difficulté par rapport aux accords actuels, c'est que il deviendrait impossible aux auteurs d'autoriser individuellement l'accès gratuit à leurs œuvres. C'est ça la principale limite. Voilà l'état de la question, pour ce qui nous concerne.
Et par qui vous pensez?
Merci. Michel, veux-tu ça, parler dans le micro? Tu seras gentil, parce qu'on va pas... Là, si, ah, oui, non, si là, regarde, là. Mais ah, là, oui. Voilà, tu as un micro.
Et qui négocie à côté des...
Oui, on voit à peu près... Oui, l'idée de licence égale, effectivement, est séduisante, mais qui paie, en fait? C'est la question qu'on se pose. Et combien... Oui, comment le calculer, la base de calcul? Mais qui paie? Est-ce que c'est comme pour les accords, le ministère qui va mettre sur la table une somme d'argent, ou est-ce que... Qu'est-ce que vous imaginez?
Pour le moment, ce n'est pas une question qui a été franchement abordée. Donc je vous garantis que pour 2008, les crédits avaient été provisionnés auprès du comptoir financier. Pour 2006-2007... C'est l'adage qui a donné l'ordre de paiement, donc ça a été payé. Pour 2008, les crédits étaient provisionnés, ils le seront. Et pour 2009, nous n'avons pas d'informations sur le mode de financement. Donc effectivement, il y a deux solutions. C'est soit effectivement une solution de type macro, celle des accords sectoriels transitoires, soit une solution de type micro, qui sera la solution type CFC, c'est-à-dire une négociation au niveau central d'accords cadres auxquels adhéreraient individuellement chaque établissement. Chaque établissement était ensuite facturé sur l'unité d'œuvre à définir. Mais comme pour le CFC, le plus simple, c'est quand même l'étudiant, la tête d'étudiant. Ouais. Mais rien n'est absolument décidé. Le cabinet de Mme Pécresse souhaite, dans un premier temps, que la CPU discute et fasse connaître aussi sa position.
Hein. En tout cas, il y a une autre question qui est beaucoup plus fondamentale, c'est qui négocie du côté des auteurs? Ou plutôt des ayants droit. Est-ce que c'est les sociétés de gestion collective? Quelles sociétés de gestion collective? Est-ce qu'elles sont habilitées à négocier sur une exception au droit d'utilisation? Autrement dit, l'article ne renvoie à aucun décret d'application. Créer une société de gestion collective nouvelle, il faut une loi. On est vraiment quand on regarde, quel que soit le lieu ou la manière dont on le voit, cet article est incompréhensible, inapplicable, inopérationnel. On est à 6 mois de finaliser la négociation. C'est assez inquiétant. Dans la mesure, je vous rappelle, moi j'ai suivi cette histoire, elle remonte effectivement à 2001, Et la directive ne parlait pas d'extrait. Je vous signale qu'elle parlait d'œuvre intégrale, hein, qui peut être préjudiciable, effectivement, pour l'enseignement. Quand on liste l'ensemble des... Enfin, on peut rentrer dans le détail, hein, parce que, bon, on a parlé de l'extrait, mais il y a fait la destination pédagogique. Est-ce qu'une encyclopédie une destination pédagogique? Est-ce que des œuvres faites pour un niveau d'études supérieures ou inférieures, est-ce qu'elles vont bénéficier de l'exception pédagogique? Voilà des tas de questions qui se posent. Enfin, j'en ai cité... qu'est-ce que c'est que l'édition numérique? Est-ce qu'on parle, de l'écrit, mais et les œuvres mixtes, les bandes dessinées, les œuvres graphiques, est-ce que c'est de l'écrit? Est-ce que c'est une œuvre qui est initialement mise sur numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de support papier? Est-ce qu'il faut du support papier? On est loin des accords sectoriels qui finalement, je pose la question, est-ce qu'ils ont été appliqués? Est-ce que vous avez des témoignages de leur application? Moi pas. J'ai même des témoignages d'absence d'information sur l'existence de ces... Et pour l'instant, dans les accords, il y avait une obligation d'information. Donc la question se pose aujourd'hui. Ces accords sectoriels étaient essentiels, ils étaient fondateurs. C'est eux qui ont justifié qu'on ne mette pas en place d'exception pédagogique, qui a été reportée au 1er janvier 2009. Je pose la question, de qui se moque-t-on? Non mais voilà, je pose une question. Est-ce que c'est un rapport de pouvoir entre le ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation nationale? Quels sont les enjeux qui sont derrière? Que veut-on privilégier? Non mais je pose des questions sincères et authentiques. Il est important que nous... Tout le monde est bloqué et paniqué et immobilisé face à la problématique des droits d'auteur. Est-ce qu'aujourd'hui, face à l'incompréhension, l'inutilisation de ce texte, il n'y a pas moyen de... C'est un constat d'échec et depuis un moment... Est-ce que ce n'est pas l'occasion de nous dire qu'il y en a assez de cette situation qui nous empêche d'évoluer, d'avancer? Surtout si on peut avoir l'exemple d'autres pays qui ont une attitude différente, c'est-à-dire qu'en fait, ils alimentent financièrement, ils s'achètent beaucoup d'ouvrages, effectivement. Et donc, ils compensent dans leur relation, ils ouvrent l'exception pédagogique, mais parce que par ailleurs, ils financent considérablement l'acquisition d'ouvrages, y compris des ouvrages éducatifs. Voilà, bon, je jette un peu la pierre dans le...
La doctrine minoritaire s'est montrée critique. Sans faire offense à l'obligation de réserve, que pouvez-vous nous dire?
Alors, la doctrine minoritaire a fait une remarque tout à fait pertinente, qui est qu'il est tout à fait précieux que l'on essaye d'évaluer les conditions dans lesquelles les accords sectoriels ont été mis en œuvre. La circulaire qui accompagnait la publication au BO se concluait par la phrase suivante nous vous prions de nous faire part dès que possible de toutes les difficultés dont vous avez connaissance dans la mise en œuvre de ces accords. Ce message tient tant encore, il est d'autant plus urgent qu'il se peut que dans quelques mois, une nouvelle phase de négociation soit engagée. Donc, et en toute hypothèse, quelle que soit la solution juridique qui sera finalement retenue, il faut absolument que l'on puisse être en mesure de rendre compte aux différents acteurs, qu'il s'agisse du ministère de la Culture, des sociétés de gestion, etc., de l'applicabilité ou non de telle ou telle mesure. Donc, je dirais, en tant que spécialiste de la question, m'adresse à toute la salle, il est tout à fait précieux que chacun à votre niveau vous fassiez remonter. Donc c'est la DARES qui est chargée de la coordination de ce dossier, donc à mes services, une petite note d'ambiance sur ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, sur votre incompréhension de telle ou telle notion, etc. Donc ça, merci d'avoir signalé cette question, puisque donc elle est d'actualité.
Eh bien, l'heure est venue d'élargir la table ronde, et M. Capul a demandé la parole, et Michel Moreau en second. M. Capul, on vous donne un micro.
Je vais peut-être apporter quelques compléments à ce qui vient d'être dit, concernant surtout le ministère de l'Éducation nationale, qui depuis quelques mois ne considère pas, comme vous l'avez dit, qu'il y a un compromis harmonieux qui s'était établi entre le ministère de la Culture et ce propre ministère de l'Éducation nationale. Le souhait du ministre est de batailler ferme dans les semaines et les mois qui viennent pour peut-être ne pas revenir à l'arbitrage qui a été perdu, c'est-à-dire une licence légale au profit de tous les enseignants, mais quelque chose qui soit négocié nationalement et qui n'oblige pas chaque enseignant, même si on est sous le régime de l'exception pédagogique, Claude Avzy, à déclarer a posteriori chaque usage qu'il fera lui-même d'une ressource utilisée dans son cours, et de une déclaration aussi de chaque usage que fera ses élèves, des ressources qu'il utilise dans ses blogs, dans les travaux personnels qu'il doit faire, etc. C'est d'abord une question financière, c'est vrai, mais ce n'est pas qu'une question financière. C'est une question financière parce que le ministère de l'Éducation nationale et jusqu'à ces derniers mois, le ministère de l'Enseignement supérieur aussi, du côté des bibliothèques, considérait que l'on donnait des sommes assez importantes aux éditeurs privés. Le CFC, un des signes, c'est qu'on est dans un vide juridique cette année 2008 concernant l'accord du CFC avec l'Éducation nationale. Les accords se sont arrêtés pour le secondaire en décembre de l'année dernière. Et il y a aujourd'hui un texte qui circule entre différents services du ministère de l'Éducation nationale, le cabinet où souvent les textes se perdent, s'oublient. Voilà. Mais en tout cas, il y a une volonté de la Direction générale de l'enseignement scolaire de peut-être renégocier les conditions financières uniquement sur la photocopie papier. L'exception pédagogique rajouterait une nouvelle charge financière. Et pour nos amis des bibliothèques, le droit de prêt a aussi conduit à donner une somme conséquente de plusieurs millions aux éditeurs privés. C'est une question financière qui pose problème, mais ce n'est pas seulement une question financière, et je dirais que principalement pour le ministre de l'Éducation nationale, c'est la question de la praticabilité de tout ce système-là pour les enseignants. On sait que ce n'est pas clair déjà dans les caractéristiques de l'article 1 de la loi que vous venez de souligner. Même la notion d'illustration n'est pas évidente. Beaucoup d'enseignants utilisent des ressources numériques pour faire la matière même de leur cours et pas seulement une illustration en passant d'un raisonnement, d'une synthèse, etc. C'est aussi la matière même. On passe à des extraits audiovisuels, par exemple, dans des sections cinéma, théâtre, musique, etc. La notion qui nous pose beaucoup de problèmes aussi, et notamment pour l'enseignement supérieur, c'est cette fameuse expression d'édition numérique de l'écrit, dont on ne sait absolument pas à quoi elle correspond. Ce n'est pas uniquement les bases de données.
Ça peut être aussi les bases de données.
Mais si c'est tout ce qui est numérique et fait directement au numérique, il ne reste plus grand-chose dans l'exception pédagogique à destination d'une utilisation simple par les enseignants. Il y a aussi une complexité. Admettons que l'exception pédagogique et que les caractéristiques de la loi DEFS y passent, on est dans une complexité extrême pour l'enseignant. Dans certains cas, il n'aura rien à déclarer, courte citation ou question d'actualité, reprendre un extrait d'un journal, je crois que l'actualité fait aussi partie des choses qui ne demandent pas une autorisation. Deuxième régime, celui de l'exception pédagogique, donc il faut déclarer a posteriori toute utilisation. Et puis troisième régime, ce qui n'est pas l'exception pédagogique, ce qui justifie une demande préalable d'autorisation de reproduction. Comment un enseignant peut aujourd'hui se repérer sur ces trois régimes différents d'utilisation des ressources numériques ? Il y a donc une lourdeur de gestion qui semble insupportable à l'entourage du ministre de l'Éducation nationale et qui va l'amener certainement à batailler, comme je disais, assez fort sur ces questions-là. C'est pas sûr qu'il gagne, mais enfin, en tout cas, aller à la discussion avec nos amis de la culture et les éditeurs qui, évidemment, sont un petit peu tétanisés par ce qui se passe dans l'industrie du disque et voient avec l'ouverture des diffusions par Internet la porte ouverte à la perte totale de contrôle sur leurs propres ressources. Du côté de l'enseignement supérieur, c'est vrai que la CPU doit donner sa position, qu'elle n'a pas encore tout à fait donnée, mais il faut se rappeler que c'est la CPU qui avait introduit, avec l'association des directeurs de bibliothèques, ou fait introduire la fameuse exception pédagogique. C'était venu de la conférence des présidents d'université et de l'association des directeurs de bibliothèques. Voilà. On est aujourd'hui, du côté de l'Éducation nationale, dans le souhait de négocier une utilisation collective, et donc qui aurait un paiement collectif par le ministère, de façon à ce que ce ne soit pas renvoyé à chaque établissement, à chaque collège, lycée, faire toute la paperasserie et la déclaration, une utilisation collective. Mais ce que nous voudrions, et je terminerai là, c'est souligner les risques d'un maintien des dispositions actuelles sans précision et sans avancée du côté de l'Éducation nationale et des éditeurs. Le risque, c'est de maintenir les enseignants dans les légalités comme ils sont aujourd'hui. C'est aussi pour certains plus légalistes de les amener à renoncer à présenter des ressources pédagogiques et donc à empêcher la diffusion d'un certain nombre d'œuvres qui sont des œuvres du patrimoine culturel français. Ça peut aussi conduire ces mêmes enseignants à utiliser des ressources qui ne posent pas ce type de problème, c'est-à-dire les ressources anglo-saxonnes, hein, tout bêtement. Et on voit ça comme un risque extrêmement, extrêmement important. Et puis, au titre du développement du numérique, ça risque aussi de freiner la diffusion de ressources numériques pour en rester à des choses papier. Et ça freinera les usages du numérique dans les établissements. Voilà.
Moi, je voudrais vous applaudir.
Oui, bien, justement, en écho aux propos de Jean-Yves Capule, de retour dans mon université, bon, je vais voir mon président, évidemment, et je vais lui dire, nous sommes écoutez, monsieur le Président, nous sommes hors la loi et donc nous allons prendre tout de suite des dispositions. Et j'aimerais bien que les honorables juristes qui sont à la table nous disent quelles sont les dispositions pratiques qu'un établissement devrait prendre pour se mettre en conformité avec la réglementation actuelle.
Il faudrait peut-être connaître les pratiques du dit établissement pour qu'on puisse le dire.
Vous savez, les pratiques sont toutes les mêmes partout. Il n'y a pas.
Alors,
personne ne fait de déclaration. Ce qu'a évoqué Jean-Yves Capoul, personne ne le fait, je ne pense pas. Sauf de très rares exceptions pour les producteurs de films, par exemple. Bon, à part ces très rares exceptions, je ne crois pas, enfin, à ma connaissance, et je connais quand même, il n'y a pas de. Personne ne déclare rien, personne ne.
Mais alors la réponse est simple, puisque la déclaration est obligatoire, ben nous sommes tous dans l'illégalité.
Mais bon, ce qui serait. Par là, c'est sur le plan pratique, il est intéressant de voir quel est le dispositif qu'on devrait mettre en place pour être dans la légalité, et ça représente aussi combien de personnes en termes de ressources humaines.
Oui, alors. À l'heure actuelle, dans le cadre des accords sectoriels, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans les conditions qu'on a décrites, enfin que je décris rapidement malheureusement, des accords sectoriels, justement, le comportement est exempté. Donc c'est pratique. Donc il n'y a rien à faire. Par contre, la question se pose, savoir comment on va faire en 2009. Enfin, en janvier 2009, là par contre, ben, on attend. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il faut une déclaration? On ne sait pas. Donc je renvoie... Pardon ?
Oui, j'avais une question concernant les accords sectoriels. Ça concerne effectivement tout ce qui est éducation nationale, mais il faut penser qu'il y a des établissements d'enseignement qui sont dans d'autres ministères. Est-ce qu'ils peuvent s'appliquer ou pas ? Et deuxième question qui est dans le prolongement, pour les futures négociations, avec l'exception pédagogique, est-ce qu'on intègre bien aussi les établissements supérieurs des autres ministères que l'éducation nationale ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, ces accords sont d'interprétation étroite. Hein, donc, s'ils ne sont pas dans la liste, c'est non. Ça, c'est clair. On est dans le cadre du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'exception. Hein, donc, on est obligé de se cantonner à une interprétation étroite. Donc, pour la deuxième question, c'est pareil. Je n'ai pas d'autres réponses, malheureusement, à vous formuler. Hein.
Oui. Le ministère de l'Éducation nationale ayant pas la réputation d'être riche, il va sans doute appeler les autres à contribuer aussi au financement.
Voilà. Juste concernant l'exception pédagogique, quand même, il y a là une différence avec les accords sectoriels, puisque justement, c'est une exception pédagogique. On ne vise pas expressément les établissements qui sont autorisés à s'en prévaloir. Donc, ça semble quand même a priori plus large.
Mais ça exclut l'enseignement continu, ça exclut l'enseignement privé, ça, y compris tout autre organisme qui peut faire de l'enseignement et de la formation, parce qu'après tout, est-ce que c'est un acte commercial que d'enseigner? La question se pose, parce qu'on dit aussi que c'est du non commercial, hein, il faut faire du non commercial nécessairement. D'ailleurs, autre question, lorsqu'on intègre dans les thèses, ça condamne aujourd'hui en utilisant l'exception pédagogique, ça les condamne, sauf à renégocier, à une non-utilisation commerciale ultérieure. Vous voyez, bon, voilà des questions. Et comme c'est interprété de manière stricte, le non commercial, ça commence très rapidement. Alors, c'est une question de frais d'inscription. Est-ce qu'une grande école avec des frais d'inscription très élevés, est-ce qu'on est dans du commercial ou dans du non commercial? Enfin, voilà, pour se remettre à plat et d'équerre, il faudrait considérer que d'entrée de jeu, que la simple récitation en cours demande un contrat si on n'a pas réglé tous ces problèmes-là.
Il me semble que la réponse pourrait venir simplement du fait que si l'établissement ne poursuit pas de but lucratif, on n'est pas dans le cadre d'une exploitation commerciale, donc l'exception pourrait s'appliquer. Enfin, c'est juste une réaction a priori, mais...
Les grandes écoles sont sous forme d'association, me semble-t-il. Et donc, hein ?
Oui, absolument.
Le fait que les grandes écoles aient
l'inscription,
je
ne
comprends pas bien ce que le financement est totalement différent.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ils réinvestissent, voilà.
Non,
c'est ça. Non, ça ne change pas.
D'accord. Et il n'y a pas d'exploitation commerciale de l'œuvre. C'est juste pour. Il n'y a pas d'exploitation commerciale de l'œuvre, même par un établissement privé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas payer pour accéder à l'œuvre. Donc il me semble que l'exception là pourrait s'appliquer.
À compter du 1er janvier 2009. Nos contenus des UNT sont par essence pédagogiques. Donc, ils sont exclus de l'exception pédagogique, sinon on lit le texte.
Ils sont conçus à des fins pédagogiques. Donc, ils sont. Oui, effectivement. Oui.
Donc, ça veut dire que. Je pose la question.
Vous avez raison.
C'est un peu provoquant, mais c'est un petit peu l'interprétation qu'on peut se poser.
Tout à fait. Non, mais vous avez raison.
Donc, quelle conclusion vous en tirez pour nos contenus des UMT?
Il n'y a pas que la destination pédagogique, il y a le public ciblé. À quel public vous adressez-vous? Il faut que majoritairement, ils soient soit des étudiants, soit des enseignants. Sur un site internet, vous avez un public tout ouvert.
Non, mais nos contenus étant des contenus numériques conçus pour la pédagogie, étant en plus numérisés souvent, et c'est le cas de c'est à double titre, ils sont exclus de l'exception pédagogique, d'après la loi.
Oui, oui.
Donc, en l'état, tous nos contenus ne font pas partie de l'exception pédagogique.
Absolument.
Je ne vois pas comment nous pouvons continuer à vivre de cette façon. On sera forcément dans l'illégalité.
Il y a une confusion. Il y a une confusion. Certes, vous n'êtes pas dans le champ de l'exception, mais comme vous êtes propriétaire du contenu que vous avez produit, bien évidemment, vous pouvez le mettre à disposition de vos étudiants.
Monsieur, je comprends bien ce que vous dites. C'est vrai pour un contenu donné, mais nous sommes en train de dire à nos mandants, faites du sécable, faites de la granularisation, reprenez des séquences, tout ça est hors exception pédagogique, puisqu'on modifie.
Il faut faire des contrats, Didier.
C'est bien ce que je crains, c'est-à-dire que ça sous-entend que chaque fois qu'on réutilisera des éléments, des contenus des UNT un jour J, il faudra un contrat pour la réutilisation.
Professeur André Lucas va faire un commentaire sur ce qu'il a entendu.
Sur tout ce que j'ai entendu, non, c'est pas possible parce que j'ai entendu trop de choses. Non, ça serait trop long. Je crois que on ne peut qu'être d'accord avec l'idée que cette exception pédagogique a été très mal conçue et très mal rédigée. J'ai écrit, je peux le répéter, que c'était pour moi un texte qui résistait victorieusement aux analyses des experts les plus opiniâtres. Parce qu'il y a des choses auxquelles il est impossible de donner un sens. L'exemple des bases de données décrites pour le numérique, on sait bien dans quel esprit ça a été fait, mais ça n'a tout simplement pas de sens. Voilà. Donc, on est obligé de le reconnaître. Il faut voir dans quelles conditions le texte a été voté. Ça a été dit. Moi, je peux témoigner de ce que, en amont du texte, au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le texte avait été soumis à un certain nombre d'experts, j'en faisais partie, et nous avions recommandé au ministère de la Culture de transposer cette exception pédagogique dont nous savions bien qu'elle ferait l'objet de débats très vite et dont nous savions aussi qu'elle était reconnue par tous les autres pays, sous une forme ou sous une autre, par tous les autres pays de la communauté européenne. Le ministère n'a pas voulu le faire. Et si des accords sectoriels ont été produits, c'est au tout dernier moment, dans l'urgence, au point que je me souviens, les travaux parlementaires en font foi, le gouvernement résistait aux demandes d'exception pédagogique en disant « Mais vous aurez des accords. » « Ah bon ?» disaient les parlementaires. « Bah, montrez-les-nous. Vous les aurez tout à l'heure dans votre casier. » Et les parlementaires revenaient et disaient « C'est pas vrai, nous ne les avons pas. » Non mais je vous assure, le journal officiel fait foi de cela. Et donc, vous voyez bien que dans quelles conditions ça s'est fait. On ne peut pas faire de bons textes comme cela. Ça va de soi. Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre et je ne peux pas m'employer à les dissiper. Ça n'est pas possible. Simplement, je me demande si vous ne chargez pas un peu la barque en rajoutant des difficultés qui sont un peu inhérentes à toute exception pédagogique. Je prends un exemple. L'exemple illustration. Et il a été dit, je comprends bien la portée de l'objection. Oui, mais c'est très ennuyeux le fait que l'exception pédagogique soit limitée à l'utilisation d'œuvres à des fins d'illustration. Parce que parfois, c'est l'objet premier de l'utilisation, c'est pas l'illustration, c'est la matière même de l'enseignement. Oui, ça je le comprends bien. Mais ici, pour décharger la responsabilité du législateur français, pour une fois on peut le dire, en réalité, cette exception, quand elle existe dans les autres pays, elle est toujours libellée comme ça. Et elle est ainsi libellée dans la Convention de Berne, qui est le texte de référence en la matière. Donc on ne peut pas en vouloir au législateur français de reprendre une expression qui figure dans le corpus normatif depuis le 19e siècle. Enfin, un peu après d'ailleurs, parce que c'est à l'occasion d'une révision de la Convention de Berne que ça a été adopté. De la même façon, l'incidence du triple test ou du test en trois états. Je ne crois pas qu'il faille en exagérer le danger. C'est vrai que le juge national peut maintenant tirer argument de ce test en trois étapes pour refuser de faire produire effet à une exception qui, bien qu'existant dans la législation nationale, ne correspondrait pas à ces trois exigences qui ont été rappelées. Mais il faut quand même bien voir que ce sont essentiellement des considérations économiques qui guident ici l'appréciation. La Cour de cassation, par exemple, a été amenée à dire que l'exception de copie privée, c'est pas notre sujet, mais quand même c'est important, pouvait, dans certains domaines, ici dans l'audiovisuel, être considérée comme ne répondant pas aux exigences du triple test, et cela l'a conduit à en écarter le bénéfice. Mais parce que les enjeux étaient énormes, pour Hollywood et pour l'industrie du cinéma en particulier. C'est pour ça que les DVD sont verrouillés contre la copie privée, et il y a quand même une logique là-dedans, quoi qu'on puisse en penser. J'ai peine à croire que l'exercice de l'exception de citation puisse véritablement menacer les intérêts économiques des éditeurs, parce que là, il pousserait le bouchon un peu loin. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit une vraie difficulté. En revanche, les œuvres conçues à des fins pédagogiques, là, je suis très sensible à ce que vous avez dit, moi, je me souviens avoir plaidé très, très vigoureusement contre cette précision. Des auteurs l'approuvent, moi je continue à la récuser, exactement pour les raisons qui viennent d'être expliquées. Je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe. À prévoir une exception pédagogique, et sitôt qu'on en a affirmé le principe, à l'écarter pour des ouvrages qui ont été conçus à des fins pédagogiques. C'est difficile à comprendre. Je sais bien que ça existe dans d'autres législations. En Allemagne, par exemple, ça existe. Et on s'est inspiré de l'exemple allemand. Mais il ne faut pas toujours s'inspirer des exemples, même de l'Allemagne. Je crois que c'est pas bien choisi. On a voulu protéger les éditeurs scolaires, disons-le comme ça, en disant il y a un marché et il faut les protéger. Voilà, c'est la même chose pour la musique d'ailleurs, ça n'a pas d'autre justification. C'est quand même un peu mince. Et alors qu'on aurait besoin de l'exception pédagogique, de plus fort. C'est surtout dans ces cas-là, à mon avis, que c'est pour ça que je parle de paradoxe. Eh bien, le texte de la loi interdit purement et simplement d'y recourir. Voilà, j'ai beaucoup d'autres observations qui me viennent à l'esprit, mais. Parce que vos débats ont été trop riches.
Merci. Pierre Pérez, vous souhaitiez, j'ai vu.
Non.
Il ajoute, non.
Je pense que j'ai dit l'essentiel. Non. Moi, personnellement, j'ai chargé la barque dans un sens particulier parce que je pense nous avons là une opportunité de nous battre effectivement avec un argumentaire fort. C'est n'importe quoi, on se moque de nous. Et ça nous donne la possibilité d'avancer, justement. Je conçois qu'il faut le faire avec beaucoup de finesse et de subtilité, mais on peut y arriver. Je pense qu'on a les moyens de ne pas négocier aujourd'hui avec ce qu'on nous a fait subir quelque part. Parce que quelque part, on s'est foutu de notre gueule. Pardonnez-moi de l'expression. Donc c'est un peu pour ça que je suis polémique et un peu provoquant, parce qu'il y a un coup à jouer, là. Et on a 6 mois devant nous.
Alors, madame, vous souhaitez intervenir, je vous en prie.
Oui, sur cette question de l'exception pédagogique et des œuvres à finalité pédagogique qui en sont exclues, je suis atterrée d'apprendre ça, effectivement. Ça signifie que si on a un manuel de cours dans lequel on prend un schéma, qu'on trouve bien, qu'on le scanne pour l'utiliser dans son propre cours, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on n'est pas dans le régime de l'exception pédagogique. Mais non, c'est incroyable. On ne peut plus travailler. C'est devenu impossible de travailler.
Voilà.
C'est un des points sur lesquels vous par écrit.
Il n'y a pas eu d'adéquation totale que le. Monsieur Lucas rappelait un peu l'historique. Effectivement, ces accords ont été négociés en 2 mois, hein, donc c'était très difficile. Donc tout n'est pas parfait. L'accession pédagogique législative a été votée fin juillet dans des conditions un peu particulières. Donc aucun de ces deux textes n'est parfait. Ça, nous sommes bien d'accord. Donc aucun de ces deux textes n'est parfait. Mais chacun de ces deux textes, malgré tout, comporte des éléments positifs. Par exemple, sur la reproduction des manuels scolaires, les accords sectoriels sont plus ouverts parce qu'ils autorisent dans la limite de 4 ou 5 pages, je crois, la reproduction des manuels. Alors que, effectivement, la lecture stricte de voilà, ou les partitions de musique, voilà, dans des conditions très restrictives.
Sauf que ces accords ne seront plus valables à partir de 2009, exactement. C'est la loi de la DVSI qui va s'appliquer, voilà. Pour la lecture pédagogique. Donc on a 6 mois où on peut travailler. Et ensuite on pourra
de copier tout ce qu'on veut.
Alors, Ceci dit, entendons-nous bien. La loi encadre strictement l'exception pédagogique, mais elle n'interdit pas aux auteurs de consentir la possibilité de le faire. Voilà. Mais il pourrait y avoir, si on fait de la prospective, un peu de prospective, on peut très bien envisager des accords qui soient pour partie des accords d'application de la disposition de la DAFSI et pour partie des accords annexes dans lesquels les sociétés de gestion ou les organismes divers consentiraient des souplesses allant au-delà de la loi.
Une demande d'intervention, au fond.
Oui, excusez-moi pour cette intervention un peu dans les dernières minutes. En fait, j'ai un cas d'école à vous soumettre, assez simple, qui nous est arrivé il y a 4 ou 5 ans et auquel nous n'avons pas trouvé de réponse. Et donc, faute de réponse, on a changé de contenu. Donc, on a une formation qui est entièrement à distance, qui porte sur la convergence de l'Internet, du multimédia et de l'audiovisuel. Donc, on est bien dans un contexte où, logiquement, on doit utiliser de l'image animée, de l'image fixe, de l'audiovisuel, du son et de l'Internet, donc des ressources à en provenance d'Internet. On a eu un enseignant qui a fait un cours très intéressant qui portait sur l'image au cinéma. Donc on est dans un contexte très classique d'analyse de l'image et il avait choisi Quai des Brumes avec un passage avec Gabin et Michel Morvan. La question a été de savoir s'il avait le droit de l'utiliser ou pas. Donc je crois que le problème s'est posé pendant environ 2 mois. Et faute d'avoir trouvé une solution, ils ont tout simplement retiré les images et pris un film beaucoup plus discret.
Il y a un marché du cinéma qui vend des extraits de films.
Pour le contexte pédagogique.
Il faut acheter l'œuvre intégrale pour avoir droit à l'objet.
Alors, quelle est la question, madame ?
Alors, la question, c'est en fait, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on aurait eu le droit de faire, en fait, si on avait un droit ?
Est-ce que vous auriez eu le droit d'utiliser Quai des Brumes ?
Exactement.
C'est ça, la question.
Mais un extrait de Quai des
Brumes. Alors, qui souhaite répondre à madame ? Qui souhaite répondre ? Karine, vous souhaitez répondre ?
Là, peut-être la possibilité à laquelle on peut penser a priori, c'est l'exception de citation dont on parlait tout à l'heure. Si l'extrait est bref, il est inséré dans une œuvre, puisque le cours peut être conçu comme une œuvre, il est utilisé à des fins de critique, éventuellement.
D'illustration à des fins pédagogiques.
Pédagogique en tout cas, critique peut-être.
Critique pas forcément, mais de toute façon...
L'auteur est identifié, l'œuvre aussi. Donc il me semble que... Alors après, il y a la question de la brièveté. Entre guillemets, quel pourcentage de l'œuvre, en même temps, c'est difficile, là, même si vous me répondez, de vous donner une réponse après, parce que c'est vraiment du cas par cas, mais il y a cette possibilité-là, éventuellement, l'exception de citation.
Et l'absence d'utilisation commerciale, il faut savoir si c'est revendu après, qu'est-ce que vous en faites après ? Ah ouais ? Ah ouais ?
C'est un usage commercial ?
C'est un usage commercial après ?
Non,
mais qu'est-ce qu'ils en font après du cours numérisé, etc. Est-ce qu'il y a...
En fait, c'est le cas très particulier de science, c'est-à-dire que c'est bien une formation initiale qui s'adresse à des étudiants en formation initiale, donc en licence professionnelle, mais d'un autre côté, les modules individuellement peuvent être vendus par le biais de l'UNRB
en formation continue.
Donc là, on a un vrai souci.
Excusez-moi, mais pour l'exception de citation, il n'y a pas de conditions d'exploitation commerciale ou pas. Ce qui justifie et ce qui légitime l'exception de citation, c'est la finalité de l'usage et l'insertion dans l'œuvre. La finalité de l'usage, elle est définie par la loi, critique, polémique, scientifique, information. Donc, à la limite, parce qu'on n'est pas là dans l'exception pédagogique, pour le coup, où effectivement cette condition existe, mais pour la citation, à la limite, même si j'avais un usage commercial... Il me semble que c'est pas forcément de nature à exclure a priori l'exception. C'est peut-être plus la condition de brièveté, éventuellement, qui pouvait susciter des discussions en fonction du volume, entre guillemets, qui a été repris dans l'œuvre. Mais le caractère commercial, encore une fois, c'est pas une condition expressément posée dans la loi.
Mais tout dépend aussi du contenu du passage que vous montrez, parce que rien n'empêcherait que ce passage contienne une œuvre intégrale pour laquelle vous n'auriez pas le droit d'utiliser l'exception pour citation. Ça a été jugé avec une affaire Piala, c'est-à-dire on a tourné, puis il y a une musique qui est venue d'une boîte de nuit, on a considéré qu'on ne pouvait pas utiliser l'exception pour citation là-dessus. Il peut y avoir une œuvre intégrale dans une œuvre courte.
Si on retient cette analyse, il n'y a plus d'exception de citation.
Alors en matière audiovisuelle et graphique, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le problème. Et justement, on nous propose une exception pédagogique avec l'extrait. Rien ne dit que ce que nous donne d'un côté, on ne va pas nous le reprendre par ailleurs, en invoquant qu'effectivement, en matière audiovisuelle, en matière plastique, en matière graphique, il y a atteinte d'abord au droit moral de l'auteur, et que rien ne nous dit que l'extrait ne veut pas vous livrer une œuvre intégrale, subrepticement.
Je crois que on joue à se faire peur, parce que on ne peut pas exclure totalement l'hypothèse où un extrait de film contient une œuvre qui aurait son autonomie, par exemple une œuvre musicale, et ayant son autonomie, et le réalisateur du film ayant eu besoin de l'autorisation pour diffuser l'œuvre musicale, la diffusion de l'extrait diffuserait en même temps l'œuvre musicale, et donc ça passerait par un régime d'autorisation. Mais c'est vraiment une hypothèse très particulière, sauf à considérer, ça a été jugé autrefois en Angleterre, qu'un film est une succession de photos, auquel cas chacun des plans est une œuvre à part entière, mais ça ne marcherait pas du tout chez nous. C'est l'œuvre audiovisuelle qu'ils font considérer dans son ensemble. Alors, je suis tout à fait d'avis de Karine Bernot. Le fait que en amont, il y a une exploitation commerciale, c'est le cas très souvent pour, si on sort de l'exception pédagogique, c'est le cas très souvent pour l'exception de citation. On fait une citation dans un livre qui va être proposé à la vente, c'est tout à fait normal. Et donc, en soi, ça n'a pas d'importance. Ce qui peut faire problème, effectivement, c'est la brièveté, naturellement, je suis d'accord. C'est aussi l'indication du nom de l'auteur. C'est pas toujours facile, dans le domaine audiovisuel, et encore moins dans le domaine musical, d'indiquer le nom de la source, sinon à interrompre la diffusion de l'œuvre musicale avec une voix off qui va dire « Attention, attention, l'extrait que vous allez entendre maintenant est tiré de telle œuvre », qui, évidemment, est difficile, est difficile à envisager. L'objection de fond pourrait venir de ceux qui disent, c'était un peu l'opinion de notre collègue Michel Dupuis tout à l'heure, que l'exception de citation est limitée au fond aux œuvres littéraires, en tout cas qu'elle est exclue en matière musicale ou audiovisuelle. Mais la Cour de cassation ne l'a jamais dit.
Non, c'est vrai.
Elle a dit pour les œuvres graphiques et plastiques qu'on ne pouvait pas bénéficier d'exception de citation lorsqu'on reproduisait une œuvre dans son intégralité. Et qu'est-ce que vous voulez? Elle a les dictionnaires pour elle, parce que reproduire une œuvre dans son intégralité, ça ne peut pas être considéré comme une citation, alors même que ce serait fugitif. On a beaucoup discuté là-dessus. Mais elle n'a jamais dit, je crois qu'elle ne peut pas dire, compte tenu de la lettre de la loi, que le bénéfice de l'exception de citation est exclu en matière audiovisuelle ou musicale, si donc les conditions sont remplies. Et il me semble que dans le cas d'un professeur, elles peuvent parfaitement l'être sous les réserves qu'on vient d'indiquer. Eh bien, dans le régime ancien et dans le régime actuel, puisque l'exception de citation n'a pas bougé, une telle utilisation était concevable.
Deux questions très brèves, parce que nous sommes pris par l'heure.
Oui, une question toute simple, probablement simpliste, je vous demande excusez, je suis un peu novice et j'ai besoin de repères. Je vous soumets un cas pratique. Dans le cadre d'un enseignement de traduction, est-ce que je peux mettre en ligne des articles de journaux, donc sur lesquels les étudiants travailleront, et dans le cadre d'un enseignement de compréhension orale, par exemple, est-ce que je peux mettre en ligne des extraits de journaux télévisés ou d'émissions de radio?
Qui souhaite répondre? Vous voulez répondre? S'ils sont contents de la question, je vous demande. Oui, mais c'est la même chose. C'est une autre question.
Ça dépend ce qu'il veut faire.
C'est vous l'avez fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut répondre, Karine?
Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous mettez l'intégralité de l'article de journal traduit en ligne, c'est ça?
Ou pour le faire
traduire. Qu'est-ce que vous voulez?
Dans son intégralité, pas forcément, mais. Que les étudiants traduiront.
C'est les étudiants qui traduisent, c'est ça?
Oui.
Donc vous prenez par exemple un extrait de journal anglo-saxon et vous le mettez à titre d'exercice.
Voilà. Oui, ou français dans l'autre sens. Ouais.
Oui,
exercice de traduction.
Oui, vous pouvez.
En prenant un support de la presse française, par exemple, et on demande à l'étudiant de traduire en anglais.
En anglais, etc. Donc, non, vous prenez un texte anglais et vous le faites traduire en français, c'est ça? L'inverse.
L'inverse.
Oui, c'est ça. C'est un exercice, oui. Un exercice pédagogique, oui.
Ça passe, oui.
Oui. Alors, ce que vous faites, c'est que mettez quand même le journal d'où c'est tiré, etc.
C'est pas sûr.
Moi, j'ai un petit doute quand même, parce que, au regard de l'exception, c'est quand même à des fins d'enseignement. Est-ce qu'on est, quand on fait, c'est une des questions, quand on fait un exercice, est-ce qu'on est encore dans la finalité d'illustration de l'enseignement?
Oui, ça je pense.
Et, mais le point aussi important, c'est qu'il faut bien voir que la traduction, c'est un acte d'exploitation. C'est-à-dire que la traduction doit en principe être autorisée en tant que telle. l'usage pédagogique, je ne suis pas certaine qu'il couvre l'acte de traduction. Enfin, j'avoue, je ne m'étais pas posé la question.
C'est toujours difficile de réagir à chaud comme ça. Moi, l'objection est d'une autre nature. L'objection, elle vient de ce que l'article, par hypothèse, constitue une œuvre autonome qu'il faut considérer comme un tout. Or, ce qui est envisagé ici, ça n'est pas l'utilisation d'une partie de l'œuvre, mais de la totalité de l'œuvre. Je ne vois pas comment.
Pas non, non, pas forcément. J'avais compris un extrait.
Oui, ça peut être des extraits.
En fait, le problème de la traduction pose un problème quand on fait une traduction. C'est le problème de l'adaptation, en fait. Mais là, en l'occurrence, la traduction est en soi l'activité pédagogique. C'est-à-dire que l'étudiant doit traduire. Donc moi, ça me pose pas de problème. C'est une activité pédagogique, à mon avis. Enfin, à condition que ce soit pour les langues. Hein. On est d'accord, hein. C'est l'enseignement des langues. Hein.
Moi, je ne crois pas que la traduction pose un problème. J'entends bien ce que dit Karine Bernot, qui dit « mais la traduction est réservée à l'auteur ». Ça, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que le droit de traduction, comme le droit d'adaptation, ça n'est jamais qu'un corollaire du droit de reproduction ou du droit de communication au public. Ce qui signifie qu'il ne se trouve mis en cause que là où il y a une reproduction, au sens de la loi sur le droit d'auteur, ou là il y a une communication au public au sens de la loi sur le droit d'auteur. Je ne crois pas que les conditions soient remplies. Donc là, on peut donner des apaisements, il me semble.
Michel Armat, 30 secondes. 30 secondes.
Merci, toi.
On arrête.
Juste une question un peu boutade, mais elle peut être sérieuse. J'ai cru comprendre qu'on pouvait faire des citations à fin de critique, mais sans porter préjudice à l'auteur. Et c'est comment interprétez-vous ce double bail?
C'est l'idée de la courte citation à titre polémique. Mais il est évident qu'à partir du moment où il y a une volonté de nuire, etc., bon, là, c'est ça en fait, c'est l'intention de nuire. C'est, enfin, bon.
La citation tronquée.
Oui, enfin bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah oui, c'est ça, le critère est là. Hein.
C'est la plus grosse critique.
Voilà, c'est ça. Mais bon, on a polémiqué sur des citations, on a plagié.
Bien,
on a...
L'heure est arrivée maintenant de conclure cette première journée. Je voulais remercier Michel Dupuis et ses trois débatteurs qui l'ont assisté pour la table ronde. Merci de vos éclairages et je voulais remercier chacun de votre patience, votre gentillesse. Vous êtes prêtés à ce programme chargé avec les contraintes d'heure qu'on a à peu près tenues à quelques minutes près ce soir, mais je pense que les débats ont été nourris et c'est ce qu'il fallait pour chacun. C'est quand même le sentiment qu'il va rentrer avec, non pas des réponses, mais des bonnes questions. Ce qui est déjà un progrès au fond.